Comment s'est accompli dans l'Europe le travail de l'affranchissement du genre humain? Dans quelle proportion y ont contribué chacune de ces personnes politiques qu'on appelle les États, la France et l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne? Le monde, depuis les Grecs et les Romains, a perdu cette unité visible qui donne un caractère si simple et si dramatique à l'histoire de l'Antiquité. L'Europe moderne est un organisme très complexe, dont l'unité, dont l'âme et la vie n'est pas dans telle ou telle partie prépondérante, mais dans leur rapport et leur agencement mutuel, de leur profond engrainement, dans leur intime harmonie. Nous ne pouvons dire ce qu'a fait la France, ce qu'elle est et sera, sans interroger sur ces questions l'ensemble du monde européen. Elle ne s'explique que par ce qui l'entoure. Sa personnalité est saisissable pour celui-là seul qui connaît les autres États qui la caractérisent par leur opposition. Le monde de la civilisation est gardé à ses deux portes, vers l'Afrique et l'Asie, par les Espagnols et les Slaves, voué à une éternelle croisade, chrétien barbare opposé à la barbarie musulmane. Ce monde a pour ses deux pôles, au sud et au nord, l'Italie et la Scandinavie. Sur ces points extrêmes pèse lourdement la fatalité de race et de climat. Au centre, s'étend l'indécise Allemagne, comme l'Oder, comme le Waal, ces fleuves vagues qui la limitent si mal à l'Orient et à l'Occident, l'Allemagne aussi a 100 fois changé ses rivages, et vers la Pologne et vers la France. Qu'on suive, si l'on peut, dans la Prusse et la Silésie, dans la Suisse, la Lorraine et les Pays-Bas, les capricieuses sinuosités que décrit la langue germanique. Quant au peuple, nous le retrouvons partout. L'Allemagne a donné ses Suèves à la Suisse et à la Suède, à l'Espagne ses Goths, ses Lombards à la Lombardie, ses Anglo-Saxons à l'Angleterre, ses Francs à la France. Elle a nommé et renouvelé toutes les populations de l'Europe. Langue et peuple, l'élément fécond a partout coulé, pénétré. Aujourd'hui même, que le temps des grandes migrations est passé, l'Allemand sort volontiers de son pays. Il y reçoit volontiers l'étranger. C'est le plus hospitalier des hommes. Entrez sous ce toit pointu dans cette laine maison de bois bariolé. Asseyez-vous hardiment près du feu, ne craignez rien, vous obligez votre hôte. Telle est la partialité des Allemands pour l'étranger. L'Autrichien, le Souabe, si maltraité par nos soldats, pleurait souvent au départ des Français. Dans telle cabane enfumée, vous trouverez toujours les journaux de la France. L'Allemand sympathise avec le monde, il aime. Il adopte les modes, les idées des autres peuples, sauf à en médire. Le caractère de cette race qui devait se mêler à tant d'autres, c'est la facile abnégation de soi. Le vassal se donne au seigneur, l'étudiant, l'artisan à leur corporation. Dans ces associations, le but intéressé est en seconde ligne. L'essentiel, ce sont les réunions amicales, les services mutuels et ces rites, ces symboles, ces initiations qui constituent pour les alliés une religion de leur choix. La table commune est un autel où l'Allemand immole l'égoïsme. L'homme y livre son cœur à l'homme, sa dignité et sa raison à la sensualité. Risible et touchant mystère de la vieille Allemagne, baptême de la bière, symbolisme sacré des forgerons et des maçons, graves initiations des tonneliers et des charpentiers. Il reste bien peu de tout cela, mais dans ce qui subsiste, on retrouve cet esprit sympathique et désintéressé. Rien d'étonnant si c'est en Allemagne que nous voyons pour la première fois l'homme se faire l'homme d'un autre, mettre ses mains dans les siennes et jurer de mourir pour lui. Ce dévouement sans intérêt, sans condition, dont se rient les peuples du Midi, a pourtant fait la grandeur de la race germanique. C'est par là que les vieilles bandes des conquérants de l'Empire, groupées chacune autour d'un chef, ont fondé les monarchies modernes. Ils lui donnaient leur vie à ce chef de leur choix. Ils lui donnaient leur gloire même. Dans les vieux champs germaniques, tous les exploits de la nation sont rapportés à quelques héros. Le chef concentre en soi l'honneur du peuple, dont il devient le type colossal. La force, la beauté, la grandeur, tous les nobles faits d'armes s'accumulent en Siegfried, en Dietrich, en Frédéric Barberousse, en Rodolphe de Habsbourg. Leurs fidèles compagnons ne sont sans rien réservés. Au-delà du seigneur, au-dessus des comtes et des ducs et des électeurs et de l'empereur, au sommet de toute hiérarchie, l'Allemagne a placé la femme, Frau. Velleda, dit Tacite, fut adorée vivante. Un vieux Minnesinger place la femme sur un trône avec 12 étoiles pour couronne et la tête de l'homme pour marchepied. Si la poésie est une affaire de cœur, c'est ici. Les Minnoliders sont pleins de larmes enfantines, de cette douleur abandonnée qui se trouble elle-même et ne peut plus s'exprimer. Vous ne rencontrerez là ni jongleur, ni gai savoir, pas davantage la frivole dialectique des cours d'amour. L'objet de ces chants, c'est la femme idéale, c'est la Vierge qui leur fait oublier Dieu et les saints. C'est encore la verdure et les fleurs. Ils ne tarissent pas sur ce dernier sujet. Cette poésie, puérile et profonde, tout ensemble, se laisse aller à l'attraction magnétique de la nature qu'elle finira par diviniser. Mélange admirable de force et d'enfance, le génie allemand m'apparaît dans ce Parseval d'Eschenbach, Ce puissant chevalier que les soins d'une mère timide ont retenu dans l'innocence et la touchante imbécilité du jeune âge. Il échappe et se rend à la ville des miracles à travers les forêts et les déserts. Mais un oiseau blessé laisse tomber sur la neige 3 gouttes de sang. Le héros revoit dans ses couleurs la blancheur et l'incarnat de sa bien-aimée. Il s'arrête. Il rêve immobile. Il contemple dans la réalité présente l'idéal qui remplit sa pensée. Malheur à qui veut finir le songe. Il renverse sans bouger de place les chevaliers qui viennent tour à tour pour l'en arracher. Ainsi éclate d'abord dans les dévouements féodales, dans l'amour et la poésie, l'abnégation et le profond désintéressement du génie allemand. Trompé par le fini, il s'adresse à l'infini. S'il s'est immolé à son seigneur, à sa dame, que refusera-t-il à son dieu? Rien, pas même sa moralité, sa liberté. Il jettera tout dans cet abîme. Il confondra l'homme dans l'univers, l'univers en dieu. Préparé par le mysticisme protestant, il adoptera sans peine le panthéisme de Schelling et l'adultère de la matière et de l'esprit sera de nouveau consommé. Où sommes-nous, grand Dieu? Nous voilà replongés dans l'Inde. Aurions-nous fait en vain ce long voyage? À ce terme se manifeste avec ses conséquences immorales la sympathie universelle ou l'universelle indifférence du génie germanique. Vienne toute religion, toute philosophie, toute histoire. L'auteur du Faust, le Faust contemporain, les réfléchira, les absorbera dans l'océan de sa poésie. Oui, l'Allemagne, c'est l'Inde en Europe, vaste vague, flottante et féconde, comme son dieu, le protée du panthéisme. Tant qu'elle n'a pas été serrée et encadrée par les fortes barrières des monarchies qui l'environnent, la tribu indo-germanique a débordé, découlé par l'Europe et l'a changée en se changeant. Livrée alors à sa mobilité naturelle, elle ne connaissait ni mur ni ville. Chaque famille dite acide s'arrête ou la retient son caprice, un bois, un pré, une fontaine. Mais à mesure que derrière s'accumulaient les flots d'une autre barbarie, slaves, avares et hongrois, tandis qu'à l'Occident la France se fermait, il fallut se serrer pour ne pas perdre terre, il fallut bâtir des forts, inventer les villes. Il fallut se donner à des ducs, à des comtes, se grouper en cercle, en province. Jetée au centre de l'Europe pour champ de bataille à toutes les guerres, l'Allemagne s'attacha bon gré mal gré à l'organisation féodale et resta barbare pour ne pas périr. C'est ce qui explique ce merveilleux spectacle d'une race toujours jeune et vierge qu'on aperçoit engagée comme par enchantement dans une civilisation transparente, comme un liquide vivement saisi reste fluide au centre du cristal imparfait. De là, ces bizarres contrastes qui font de l'Allemagne un pays monstrueusement diversifié. Des états de 20 millions d'hommes, d'autres de 20 000. Le morcellement infini, le droit infiniment varié des seigneuries féodales. Et à côté, une grande monarchie disciplinée comme un régiment. Des villes d'hier, toutes blanches, nivelées, alignées, tirées à angle droit, ennuyeuses et maussades petites Londres. D'autres, comme la bonne Nuremberg, où les maisons grotesquement peintes prêchent toujours aux passants les paroles du Saint-Évangile. Ou bien, pour unir tous les contrastes, de savantes bibliothèques au milieu des forêts et les cerfs venant boire sous le balcon des électeurs. Ces oppositions extérieures ne font qu'exprimer celles des mœurs. L'esclavage de la glèbe, les communes du Moyen-Âge, tout se trouve dans ce curieux musée où chaque pas dans l'espace vous fait voyager dans le temps. Dans plusieurs provinces, la famille est servante, comme elle l'était du guerrier barbare, ce qui ne l'empêche pas d'être déifiée par le génie idéal de la chevalerie. De toutes ces contradictions, la plus forte est celle qui maintient sous le joug du Moyen-Âge un peuple curieux d'innovation et enthousiaste de l'étranger. Avec si peu de ténacité, une telle perpétuité d'usage et de mœurs, certes, ce qui manque à l'Allemagne, ce n'est point la volonté du changement, de l'indépendance. Que de fois elle s'est soulevée, mais c'était pour retomber bientôt. Le vieux génie saxon, éternelle opposition politique de l'Allemagne, la fierté farouche des tribus scandinaves, tout l'honneur proteste contre la tendance panthéistique des provinces méridionales. Il refuse de perdre sa personnalité en un homme, en Dieu ou dans la nature. Cette prétention du Nord se déploie avec une magnifique ostentation. En Islande, les dieux mourront comme nous. L'homme les a précédés. L'univers s'est taillé des membres d'un géant. « À qui crois-tu ? » disait saint Olaf à un de ses guerriers. « Je crois à moi, » répondit-il. D'où vient donc que ce génie superbe retombe toujours si vite en religion, en mysticisme, au despotisme, en politique ? La Suède, le champion de la liberté protestante sous Gustave Adolphe, s'est soumise aux Rose-Croix. Qui parla plus haut que Luther contre la tyrannie de Rome ? Mais ce fut pour anéantir la doctrine du libre-arbitre. Du vivant de Luther à sa table même, commença le mysticisme qui devait triompher en Bohême. Kant mit sur son étendard les mots « critique et liberté ». L'Allemagne entendit être enfin libre et forte, et pour mieux s'assurer de soi, elle se serra dans les entraves d'un effrayant formalisme. Mais cette nature glissante échappait toujours, par l'art et le sentiment, par Goethe et par Jacobi. Alors va Fichte, inflexible stoïcien, ardent patriote. Il prit pour affranchir l'homme le seul moyen qui restait. Il supprima le monde comme il eût voulu délivrer l'Allemagne en supprimant la France. Vaines espérances des hommes, la philosophie de Fichte, les chants de Körner et 1814 aboutirent au sommeil, sommeil inquiet sans doute. L'Allemagne se laissa rendormir au panthéisme de Schelling, et si le Nord en sortit, ce fut pour violer l'asile sacré de la liberté humaine, pour pétrifier l'histoire. Le monde social devint un dieu entre leurs mains, mais un dieu immobile, insensible, tout propre à consoler et à prolonger la léthargie nationale. Non, la grande, la savante, la puissante Allemagne n'a pas le droit de mépriser la pauvre Italie qu'elle écrase. Au moins, celle-ci peut alléguer la langueur du climat, les forces disproportionnées des conquérants, la longue désorganisation. Donnez-lui le temps, à cette ancienne maîtresse du monde, à cette vieille rivale de la Germanie. Ce qui a fait l'humiliation de l'Italie comme peuple, ce qui l'a soumise à la molle et disciplinable Allemagne, c'est précisément l'indomptable personnalité, l'originalité indisciplinable qui, chez elle, isole les individus.